La sociologie, c'est tout simple. C'est la volonté d'approcher avec méthode et d'éclairer les phénomènes sociaux, tout simplement. La sociologie ne consiste pas pour nous à expliquer le social par le social, selon la vieille maxime, vous savez, durkheimienne, Émile Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique. Car si vous expliquez, si vous avez la volonté d'expliquer le social seulement par le social, vous passez à côté d'un certain nombre de réalités. Nous partons du principe que les objets sociaux sont peut-être les objets les plus complexes qu'ils soient, qui sont produits par des cerveaux qui sont eux-mêmes les objets les plus complexes de l'univers connu, 1 000 000 000 000 000 000 de connexions, eux-mêmes en milliards d'interactions. Et nous pensons que vouloir éclairer ces phénomènes en fermant les yeux, par exemple, sur leur réalité cognitive, sur leur réalité psychologique, sur les neurosciences, et même, pourquoi pas, sur la biologie, eh bien, c'est être borgne aussi, ou éventuellement même aveugle.
Nous avons nos deux yeux grands ouverts pour cette deuxième et dernière partie de la Grande Table. Après la bataille des économistes l'an passé, cette année fut celle des sociologues, emmenés par le flamboyant Gérald Bronner qu'on vient d'entendre, et qui dans le danger sociologique pointe les dérives militantes et idéologiques de la discipline et l'absence de prise en compte des progrès des neurosciences et de l'imagerie cérébrale dans la compréhension des actions sociales, invitant ses confrères à plus de rigueur scientifique. Dans ce contexte, il paraît important de se demander qu'est-ce que la sociologie et à quoi sert-elle ? Dans des sciences sociales à la science sociale, fondement anti-utilitariste, aux éditions Le Bord de l'eau qui vient de paraître, il plaide pour une refondation de la sociologie généraliste, plurielle et ouverte au monde, et surtout non-utilitariste. Mais sur quelle base ? Faut-il notamment réhabiliter le structuralisme ? On va ouvrir la discussion aujourd'hui avec Alain Caillet, qui a co-dirigé cet ouvrage, professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Ouest La Défense, fondateur de la revue Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, auteur de nombreux ouvrages, dont La quête de reconnaissance, auteur aussi d'une anthropologie du don, d'une théorie anti-utilitariste de l'action ou encore d'un manifeste du convivialisme. Bonjour.
Bonjour.
Et puis pour l'instant, votre partenaire de discussion, Alain Caillet, est absent, mais il ne va pas tarder à arriver.
Alain Caillet est présent.
Oui, Alain Caillet. Votre partenaire, Alain Caillet, est absent, mais il va arriver. Il s'appelle Patrice Maniglier. Il est philosophe, professeur à l'université Paris-Nanterre. C'est un peu un pop philosophe, un penseur de la culture, des films hollywoodiens aux jeux vidéo. Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs sur Matrix, sur un anti-manuel d'éducation sexuelle qu'il a coécrit avec Marcella Yacoub. Il a également dirigé l'ouvrage Le moment philosophique des années 60 en France, et il fait paraître actuellement avec Emmanuel Loyer la correspondance de Roman Jakobson avec Claude Lévi-Strauss aux éditions du Seuil, truculente correspondance dont nous parlerons aussi avec lui. Les sciences sociales sont-elles en crise pour vous, Alain Caillet ? Caduques, voire inadaptées à leur temps ? On a le sentiment que c'est sur ce constat que vous ouvrez votre réflexion dans cet ouvrage collectif des sciences sociales à la science sociale. Pourquoi dites-vous qu'elles sont victimes de leur hyper-spécialisation ?
Et dire qu'elles sont en crise, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque tout est toujours en crise en permanence. Mais il me semble quand même, on peut peut-être prendre le problème par un autre bout, celui des sciences sociales pour commencer, et se poser tout simplement la question très générale, est-ce que nous avons l'impression de bien comprendre ce qui se passe dans le monde ? Les évolutions de la société à l'heure actuelle, est-ce que nous n'avons pas au contraire l'impression d'être en permanence dépassé par le flux des informations, des événements, sans avoir aucune maîtrise intellectuelle ou cognitive sur la question.
Malgré les multiples tentatives d'éclairer.
Malgré les multiples tentatives
par
d'éclairer.
Par les disciplines, ce qui s'y joue.
Alors évidemment, on peut se dire que le monde évolue tellement rapidement que c'est presque une course impossible à gagner pour le rattraper. On se rappelle bien sûr la phrase de Hegel disant « la philosophie, la chouette de Minerve se lève à la tombée du jour ». Maintenant, on n'est plus à la tombée du jour, on est quasiment au cœur de la nuit. Et on a l'impression de ne plus comprendre grand-chose à ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas grand-chose ? Pour les raisons qu'on vient de dire, tout va très vite, les phénomènes sont épouvantablement complexes, toutes les structures héritées se défont, se recomposent à des vitesses invraisemblables. Mais il y a quand même une raison, c'est là-dessus qu'on essaie de centrer le livre, avec quand même des auteurs qui sont représentatifs de nombreuses disciplines et qui sont tous très connus et renommés dans leur partie. L'autre raison pour laquelle nous avons du mal à comprendre le monde, c'est probablement une certaine péremption, une certaine usure des structurations disciplinaires entre les disciplines des sciences sociales. Et bien sûr, ce à quoi on assiste, c'est à une prolifération des discours spécialisés. Donc chaque discipline regarde le monde avec son projecteur particulier et ne voit que ce que peut éclairer ce projecteur en question. Mais on n'en est même plus là. On en est dans l'univers des sciences sociales, à la guerre, non seulement des disciplines contre toutes les disciplines, de tous contre tous, mais à la guerre des sous-disciplines contre les sous-disciplines, des sous-sous-disciplines, etc. Donc il y a des discours de plus en plus spécialisés.
Et aux guerres intradisciplines également.
Intradisciplinaires,
c'est avec Gérald Blonert.
Bien sûr, c'est au cœur des disciplines. C'est la guerre entre sociologues que vous évoquiez tout à l'heure est bien sûr très, très caractéristique. Et c'est la même chose entre économistes. Mais entre économistes, bon, il y a la guerre entre économistes dit orthodoxe ou standard économiste dit hétérodoxe, mais il y a aussi des discours extraordinairement spécialisés. Toute l'économie financière, par exemple, est incompréhensible pour 99% des économistes habituels. Donc le champ du savoir éclate de façon vertigineuse en parcelles.
Est-ce que c'est plutôt sain ou est-ce que ce sont des faux débats pour vous ?
Alors lesquels ?
Ces batailles que vous venez d'évoquer, guerres intradisciplines ou entre-disciplines.
Je pense que c'est en partie des faux débats. Je pense que c'est en partie des faux débats. Et on s'en aperçoit si on replace la discussion, non pas à l'intérieur des disciplines, entre différents types d'économistes ou différents types de sociologues appartenant à des écoles différentes, mais si on les replace dans le cadre de la science sociale en général. On peut se rappeler la phrase de Marcel Mauss, un de nos aspirateurs, un de mes aspirateurs. Il n'y a pas des sciences sociales, il y a la science sociale. Bon. Et je pense que c'est du point de vue de la science sociale qu'il faut raisonner. Ce qui ne veut pas dire que les spécialisations disciplinaires ne sont pas légitimes ou ne sont pas utiles ou nécessaires. Mais simplement, il faut que le mouvement de spécialisation qui nous rend toujours plus intelligents, toujours plus fins, toujours tout plus malins sur des choses de plus en plus techniques et de plus en plus microscopiques, il faut que ce mouvement de spécialisation, d'hyperspécialisation, de spécialisation soit compensé par l'institutionnalisation d'un moment du rassemblement, d'un moment de la synthèse. Un moment où on peut dialoguer entre les différentes disciplines. Donc non seulement entre les écoles qui s'affrontent au sein de chacune des disciplines, mais dialoguer entre les disciplines elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'était la sociologie à ses débuts.
Ce que vous venez de nous dire, Alain Cayet, paraît assez simple et même assez
ça
évident.
Ça paraît un petit peu de bon sens.
Oui, et beaucoup de bon sens. Donc, il n'y a pas de problème.
Et si, le problème, c'est que ce bon sens, tout le monde peut être d'accord avec le diagnostic, mais que dès qu'on essaye de mettre la thérapeutique en pratique et d'y remédier, alors là, on assiste à une guerre vertigineuse. C'est-à-dire que tout économiste, un économiste qui cite des philosophes dans une thèse d'économie sera sûr de ne pas avoir de poste à l'université ou dans la recherche. Et c'est vrai très largement dans tout un ensemble de disciplines. Donc ces disciplines qui fonctionnent un peu comme des équivalents d'État-nation. Chaque discipline se découpant un champ du savoir et aspirant à la maîtrise globale de l'ensemble du champ du savoir à partir de son domaine spécialisé. Bien. Toutes ces disciplines aujourd'hui dans cette logique d'hyperfragmentation deviennent de plus en plus chauvines, voire racistes, exclus systématiquement. Alors, on a bien sûr des grands discours rituels, des plaidoyers pour la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. On pourra revenir sur ces termes qui méritent quelques précisions. Mais la pratique est exactement à l'inverse des invocations en question.
Alors, dans cet ouvrage collectif des sciences sociales à la science sociale, vous avez donné la voix à plusieurs chercheurs, intellectuels, penseurs aussi de l'époque, venus de disciplines a priori différentes.
Ça ressemble un peu à une arche de Noé.
Exactement. Il y a des anthropologues, des économistes, des géographes, des historiens, des sociologues, bien
beaucoup
sûr.
Beaucoup de sociologues.
Et peut-être même des philosophes. Bonjour Patrice Maniglier.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que les philosophes, on voit au chapitre, quand on parle de sciences sociales, et en quoi la philosophie peut-elle nous aider à réunifier ces différentes disciplines pour n'en faire qu'une, Patrice Maniglier ?
C'est une bonne question, effectivement. Et je pense qu'il y a une mauvaise manière, en tout cas, de le faire. C'est d'imaginer que la philosophie puisse, disons, produire un système général des connaissances ou du monde à l'intérieur duquel le phénomène social serait situé. Donc ça, c'est un peu le projet du 19e siècle. Je pense que ça, c'est plus l'actualité des rencontres entre philosophie et sciences sociales. La philosophie, en revanche, elle peut intervenir pour débloquer des sortes de, on pourrait dire, d'inhibitions théoriques, d'inhibitions conceptuelles, qui sont dues justement à un manque d'audace pour poser des idées qui sont des idées qui, peut-être, font violence au sens commun. Et c'est souvent là qu'on a besoin, en fait, de philosophes. C'est quand on touche à des évidences du sens commun.
Une question de Camille Manière qui est à mes côtés.
Sur ce phénomène d'utilitarisme, en tout cas d'orientation utilitariste des sciences sociales, à quoi est-ce que vous l'attribuez? Est-ce que c'est lié aussi à des impératifs ou en tout cas une influence des milieux économiques sur la spécialisation d'une recherche qui va aller chercher des applications concrètes et qui va être peut-être financée par des groupes privés?
Curieusement, les choses se sont passées presque à l'envers. Il y a eu une espèce de bouleversement intellectuel dans les années 80 qui a précédé la globalisation, ce que les anglo-saxons appellent la globalisation, autrement dit l'hégémonie du capitalisme financier et spéculatif sur l'ensemble de la planète. Mais pour revenir un petit peu en arrière, ce qu'il faut préciser, ça fera écho à votre question, c'est que lorsqu'on plaide pour l'institutionnalisation de cursus dans une science sociale généraliste, généraliste, je ne dis pas général, généraliste. Tout le monde semble penser que c'est totalement impossible, invraisemblable, qu'un discours général n'a plus place aujourd'hui. Mais si on regarde un petit peu près, ce discours général ou généraliste, il existe déjà depuis une trentaine d'années. C'est le modèle économique généralisé, avec tout un ensemble de variantes plus ou moins sophistiquées, etc. Voilà. Et ce modèle économique généralisé, il est lui-même la cristallisation d'une pensée utilitariste, c'est-à-dire d'une manière de penser le monde à partir d'une unique question. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À quoi ça me sert ? Voilà. Et ce qui était très frappant dans la rencontre que nous avions organisée à Cerisy-la-Salle et dont ce livre est issu, qui réunissait effectivement des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des économistes, tous très connus dans leur domaine, c'est que l'accord s'est fait très rapidement sur l'idée que un des enjeux fondamentaux de la connaissance aujourd'hui, c'est le dépassement de ce modèle économique, qui n'explique pas grand-chose au bout du compte, et que ça ne peut se faire que sur des bases anti-utilitaristes ou non-utilitaristes.
Alors, pour donner quelques exemples, François Hartog, dans cette possible, cette manière d'essayer de repenser, le sens des sciences sociales et de vous réunir tous autour de cette matière, estime qu'il faut détacher l'histoire du présent pour essayer, là encore, de la rendre non utilitariste. Michel Vivorca, de son côté, estime que ce nouveau fondement repose dans la pensée universaliste, avec des nuances qu'il essaye d'y associer. Chacun va essayer d'apporter un peu sa pierre à l'édifice pour pilonner ce mauvais fondement utilitariste que vous semblez tous dénoncer et pour essayer de reconstruire d'autres fondements. Alors, quels sont-ils ces bons fondements sains qui pourraient permettre de réunifier aujourd'hui ces différents courants?
Alors là, la question devient plus difficile, puisqu'évidemment, chaque discipline, et au sein de chaque discipline, chaque école a une idée de ce que devraient être les bons fondements. Mais est-ce qu'il y a des dénominateurs communs? Pour ma part, ça c'est mon pari personnel, ou le pari de mes amis dans le cadre de la revue du Mauss, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, qui rend hommage à Marcel Mauss, à l'essai sur le don de Marcel Mauss, il nous semble que ce que j'appelle le paradigme du don, et de la reconnaissance, et on pourrait même ajouter le paradigme du don, de la donation et de la reconnaissance, est probablement le meilleur traducteur de ce qui se cherche dans d'autres écoles, dans d'autres courants de pensée. Le meilleur traducteur, par exemple, des philosophies de la reconnaissance, de la lutte pour la reconnaissance, développée par Axel Honneth ou Nancy Fraser, ou de toutes les théories du Caire, etc. Et vous voyez dans le livre, par exemple, il y a un dialogue intéressant avec Olivier Favoureau en économie, le chef de file de l'école dite des conventions, qui voit bien comment tout le discours des conventions, de l'économie conventionnaliste, pourrait assez facilement se retraduire dans le discours du paradigme du don. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de produire un savoir en surplomb. Une science sociale générale, ce n'est pas un savoir en surplomb, c'est une filière dans laquelle on institutionnalise, on institue, et on rend possible le dialogue entre différentes disciplines, entre différentes écoles. Ce dialogue qui, pour l'instant, est rendu tout à fait impossible.
Alors, l'utilitarisme, c'est les années 70, et il y a eu un avant, âge d'or des sciences sociales, si on peut simplifier un peu, c'est justement ces années où le linguiste Jacobson et l'anthropologue Lévi-Strauss dialoguent. C'est cette correspondance que vous publiez aujourd'hui, Patrice Maniglier, et que vous présentez. Ensemble, dites-vous, ils sont parvenus à construire un pont entre abstraction de la science et expérience sensible. Ensemble aussi, ce dialogue entre l'anthropologue sur sa pratique et le linguiste, c'est aussi tout ça qui a fait le structuralisme. Alors, pour une définition du structuralisme par rapport à l'utilitarisme, on va commencer par le définir en lui-même et on va donner la parole à Claude Lévi-Strauss.
Alors, structuralisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? C'est un mode de pensée, une méthode d'analyse, une idéologie, qu'est-ce que c'est?
C'est un mot qui a été tellement mis à toutes les sauces, si vous voulez, que moi-même je n'ose plus l'utiliser. Parce qu'en réalité, on s'est imaginé que c'était une grande nouveauté, pas du tout. Enfin, c'est tout simplement un effort pour introduire dans les sciences, ou ce qu'on appelle à tort, les sciences de l'homme ou les sciences sociales, parce que nous ne sommes pas des sciences, un petit peu plus de rigueur qu'il y en avait précédemment. Et en fait, c'est qu'on croit qu'il s'agit d'une découverte récente. Non, je crois que la façon la plus simple de faire comprendre ce que c'est que le structuralisme, dire nous avons affaire, nous autres qui étudions les hommes ou les sociétés humaines, à des objets qui sont extraordinairement compliqués, qui sont en réalité beaucoup plus compliqués que les plus compliqués de ceux que nos collègues biologistes ou physiciens étudient.
Alors, il pose les bonnes questions, Bernard Pivot, dans Apostrophe, en 84, et on voit bien que Claude Lévi-Strauss a lui-même bien du mal à définir, Patrice Manigbier, ce qu'est exactement le structuralisme, mode de pensée, idéologie, après coup. Comment vous le définissez?
Eh bien, je le définirais comme un mouvement. Un mouvement, ça veut dire justement quelque chose qui bouge. Et ce qui caractérise ce mouvement, c'est justement ces effets de transfert d'une discipline à l'autre. C'est-à-dire, partant de la linguistique, à travers, en réalité, l'œuvre de Jacobson, même si on fait remonter le structuralisme à Saussure, le linguiste suisse de la fin du XIXe siècle, c'est en fait Jacobson qui invente le mot structuralisme pour désigner une tendance de la science russe au départ, puis de la science moderne, dit-il, qui s'oppose précisément au positivisme, dit-il, qui est assez proche de l'utilitarisme, c'est-à-dire une manière de s'en tenir, pour le positivisme, à des éléments isolés, alors que le structuralisme, lui, s'intéresserait plutôt aux relations, au primat des relations, disons, sur les éléments dans les relations. Alors, typiquement, dans le langage, on ne peut pas étudier, par exemple, l'histoire d'un mot ou d'un phonème sans prendre en compte l'ensemble du système phonologique. Parce qu'en fait, les sons que nous entendons, nous ne les entendrions pas s'il n'y avait pas d'autres sons auxquels nous sommes habitués. Alors, c'est très simple. Les Espagnols, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de faire la différence entre P, B et V, eh bien, ne l'entendent pas. Beaucoup de langues asiatiques ne font pas la différence entre R et L, et donc ils ne l'entendent pas. Donc c'est pas qu'il y a des faits observables qu'ensuite on décode et qu'on interprète, c'est qu'en fait notre perception est organisée par ces relations.
Alors, on voit d'ailleurs à travers cette correspondance que vous publiez qu'il y a beaucoup de petits schémas, des dessins, des chiffres, presque des algorithmes auxquels se rattacherait chaque expérience humaine. Et c'est ce qui a été un peu reproché à ce structuralisme, celui d'être un langage trop scientifique, portant une pensée trop technocratique, d'être finalement très complexe et pas si facile d'accès. C'est un mode de pensée, c'est un mouvement, vous l'évoquez. Mais ce qui est aussi très rigolo dans cette correspondance, c'est qu'on se rend compte que ces deux messieurs, ces deux sphinx ou ces deux fauves, comme vous les appelez, discutent de nombreuses choses et ont des sujets d'étonnement assez particuliers, comme, alors je peux citer quelques exemples, on peut y revenir ensemble. Vous avez notamment republié cette correspondance qui a donné naissance à leur article commun et bien connu sur le sonnet Le Chat de Baudelaire. On voit comment est née cette analyse commune qu'ils ont pu en faire. Lévi-Strauss écrit à Jacobson: je vous envoie 6 inclus d'autant tentative, l'une sur Baudelaire, l'autre sur Nerval, pour lesquelles je demande toute votre indulgence. La tentative va enthousiasmer Jacobson, qui va enrichir l'analyse de Lévi-Strauss et lui répondre à son tour. Et c'est comme ça qu'est née finalement cette critique littéraire de ce poème, bien connu aujourd'hui. Quels sont leurs autres sujets d'étonnement commun?
Oh ben, il y en a beaucoup, parce que ils ont une érudition absolument gigantesque. Alors ça peut être les champignons, par exemple. Lévi-Strauss était un grand passionné des champignons. Ou ça peut être, par exemple, une petite observation que fait Lévi-Strauss, de savoir pourquoi est-ce qu'on cuisine l'orge en riant et le blé en pleurant. Enfin, je sais plus si c'est dans cet ordre-là. Et donc il demande à Jacobson... pourquoi dans le Talmud c'est censé être le cas? Et alors Jacobson lui dit je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Et puis il se passionne sur cette question. Et donc en fait c'est un phénomène d'enthousiasme réciproque en réalité. C'est vrai qu'on ne dit pas assez que la vie de la recherche est quand même fondée sur des expériences enthousiasmantes qui portent. Et alors là on le voit très bien. Bon, par exemple le poème Les Chats, c'est il se récitait des poèmes le soir après le dîner par cœur, parce qu'eux-mêmes connaissaient beaucoup de poèmes. Et Jacobson avait des idées sur la poésie, qu'il partage avec Lévi-Strauss, à l'enthousiasme, comme c'est souvent le cas dans leur échange. Lévi-Strauss s'enthousiasme pour ce que dit Jacobson. Et Lévi-Strauss envoie des choses, quoi, pour
répondre. Il lui envoie aussi une belle série de contrepéteries qu'il a trouvées, qui serviront peut-être,
ça commence comme
dit-il,
ça.
Un sopal, un pot sale, muer une touche, tuer une mouche, il tiendra une vache, il viendra une tâche de quatre portes de soisson, de quatre sortes de poissons. Deux esprits assez savants et qui aimaient s'amuser aussi de leurs différences. On peut peut-être, vous la, je ne sais pas si vous avez pu la feuilleter, eu le temps, Alain Cayet, cette correspondance qui vient juste de paraître. Donc c'est normal.
Je suis désolé.
On vous la transmettra.
Je crois que ce qu'on peut peut-être dire par rapport à ce qui, enfin, si vous permettez, par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que le structuralisme était justement un de ces paradigmes transdisciplinaires, un de ces grands mouvements. Bon. Ce qui le caractérise, à mon avis, c'est-à-dire on a cru y voir justement une volonté d'appliquer des méthodes en gros mathématiques à l'analyse des phénomènes humains. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas l'essentiel. Ce que je crois, la correspondance fait bien apparaître, comme certaines relectures plus contemporaines de ces deux auteurs, c'est que au fond, l'idée centrale, c'est que les phénomènes qui nous intéressent sont des phénomènes variables. Ce sont des comparatifs, ce sont des gens qui s'intéressent à la variété des langues, à la variété des cultures. Et donc, on a affaire à des phénomènes dont la nature même est de varier. Et qu'il faut développer des méthodes propres à ces objets qu'on pourrait appeler des variantes.
Et donc, voilà. Il faut surtout s'intéresser à ces différences, à ce qui est singulier,
absolument.
Plus, ou en tout cas le réintégrer dans ce qui est invariable, dans ces structures qui nous tiennent, mais qui ne peuvent pas écraser ces différences, c'est ça en somme ?
Absolument, c'est-à-dire que les universaux de l'esprit humain qui intéressent ces deux esprits, justement, eh bien, ce seraient des machines qui sous-tendent la variation. Ce qui fait, si vous voulez, la faculté du langage, c'est celle qui fait qu'on ne parlera pas la même langue au début de sa vie qu'à la fin de sa vie. Et donc ça, c'est un phénomène absolument fondamental qui s'oppose, parce qu'il y a d'autres paradigmes transdisciplinaires aujourd'hui dans les sciences humaines. Le cognitivisme en est un. Tout ce qui relève des big data est en train de devenir, enfin, aussi un paradigme. Bon, vous avez parlé, d'ailleurs, dans le livre, vous parlez à la cahier de l'histoire connectée. Romain Bertrand fait partie de ça.
Oui.
Donc ces nouvelles méthodologies sont présentes. Et donc, il y en a plusieurs qui reposent à chaque fois, je pense, sur des propriétés de l'objet un peu importantes. Et ben, le structuralisme repose sur une propriété très importante de l'objet, qui n'est pas simplement son caractère totalisable, mais qui est son caractère variable. Et cette thèse en laquelle c'est pas parce qu'on diffère qu'on peut pas dégager des principes généraux est une thèse extrêmement profonde et même, je dirais politiquement ou voire spirituellement importante.
Alors, Alain Cayet, est-ce que c'est l'utilitarisme qui a tué le structuralisme ?
Non, d'abord l'utilitarisme c'est une histoire assez ancienne. Enfin, c'est ce qui a émergé dans les années 80, c'est une variété particulière d'utilitarisme économiciste radical, je dirais économiciste vulgaire. L'utilitarisme c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Non, je ne pense pas que ce soit l'utilitarisme qui ait tué le structuralisme. Je pense, mais là on aurait une véritable discussion à mener, je pense qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant, d'insuffisant dans le projet structuraliste tel que Lévi-Strauss l'a mené, malgré l'extraordinaire talent et l'enthousiasme que suscite la lecture des textes de Lévi-Strauss. Et cette insuffisance, je pense qu'elle renvoie à ce que disait Patrice Manilier à l'instant, peut-être un dosage insuffisamment maîtrisé entre l'étude des variations et la recherche de formes universelles. Alors c'est un comparatisme, très bien, l'ethnologie, l'anthropologie est comparatiste, ou comparativiste comme on voudra dire, mais ça n'empêche pas la recherche d'invariants. La question c'est où est-ce qu'on va chercher les invariants ? Lévi-Strauss les cherche dans les structures de l'esprit humain. Mais du coup on a du mal à percevoir les invariants de toute société humaine, de toute culture humaine. Et c'est là où je pense qu'à certains égards, Mauss, dont Lévi-Strauss s'inspire, et dont d'ailleurs à la fin de sa vie reconnaît les mérites absolument éminents, à certains égards va plus loin. Je m'explique en quelques mots. Mauss est aussi sensible que Lévi-Strauss à la variété des cultures, puisque d'ailleurs, pour lui, ce qui définit une culture, c'est justement sa variété. C'est sa différence avec toutes les autres cultures. C'est son arbitraire, comme il dit. C'est des choix arbitraires qui façonnent une culture. Mais malgré ce comparativisme généralisé de Mauss, et malgré son relativisme radical, ben, au fond, l'essai sur le don débouche sur une proposition, bien sûr discutable, mais fondamentale, à savoir qu'il existe un roc, ce que Mauss appelle un roc de la morale éternelle, un roc des relations humaines, et ce roc, il le trouve dans ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Alors bien sûr, c'est à chaque fois différent. Dans chaque culture, dans chaque société, on va définir différemment qui doit donner quoi, à qui et comment, à quel moment, etc. Ça fait la variété des cultures. Mais il reste un invariant, fondamentale, qui est cette triple obligation de donner, recevoir et rendre. Et si on l'isole, à ce moment-là, on peut dériver tout un instant de vos propositions, y compris, bien sûr, de philosophie morale et politique. Le problème de Lévi-Strauss, pour moi, c'est que il a insuffisamment distingué le don et l'échange. Il a eu tendance à résorber ce que Mauss avait découvert, la triple obligation de donner, recevoir et rendre, dans l'échange en général. Et en faisant ça, ça a sérieusement compliqué la tâche, parce que l'échange en général, Lévi-Strauss ne s'inspirait pas seulement de Roman Jakobson, il s'inspirait également de Neumann et Morgenstern, les économistes. Et donc il y a une tendance à rabattre la relation de don, donner, recevoir, rendre, retraduite en échange sur l'échange économique. Et donc le structuralisme s'est révélé, au bout du compte, une machine pas suffisamment puissante pour faire pièce à l'utilitarisme.
Bon, Patrice Péniglier, qu'est-ce qu'on fait? Alors on jette le structuralisme avec l'eau du bain, ou est-ce qu'on peut quand même le repenser? Voilà.
Alors on peut le
recomplexifiant pour penser aussi la science sociale aujourd'hui.
Oui, bon, la question du don est centrale dans toute l'œuvre de Lévi-Strauss, du début à la fin. Je crois que ce que Lévi-Strauss peut nous apporter sur cette question du don, c'est de nous dire le don est pas... Et d'une manière générale, le social n'est pas quelque chose qui s'ajoute par-dessus la vie matérielle et économique des peuples. En vérité, le don constitue la nature des objets qu'il y a à donner. C'est pas qu'il y a des objets et puis qu'il s'agit de savoir comment est-ce qu'on va les répartir, ou comment est-ce qu'on va les faire circuler, est-ce qu'on va les donner, est-ce qu'on va les vendre, est-ce qu'on va... Non. Ce que dit Lévi-Strauss, notamment dans son texte qui s'appelle une introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, précisément, qui était publié en 1950, bon, c'est de dire... L'idée centrale, c'est de dire d'abord on donne du sens au monde, et du fait de la manière dont on donne du sens au monde, eh bien, on est obligé de les donner, les choses. Parce que on les signes ont cette propriété de ne pouvoir être définis qu'en relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres signes. Il n'y a pas de signe seul. Donc si un signe est défini en relation avec d'autres signes, ça veut dire qu'il est nécessairement substituable. Et si vous appliquez ça aux objets du monde commun, un verre, il est défini parce qu'il est substituable à autre chose. Un verre en tant qu'il est, disons, qu'il a un sens pour nous, dans notre vie. Et évidemment aussi, c'est vrai des êtres humains les uns pour les autres. Ils sont définis parce qu'ils sont substituables les uns aux autres. Donc ce qu'on appelle les structures de parenté, par exemple chez Lévi-Strauss, c'est la manière dont les différents individus sont définis comme étant substituable à d'autres. Donc une femme va être définie comme étant substituable à d'autres femmes, et c'est ça qui va déterminer sa position de parenté. Bon, et ça c'est très important, parce que ça veut dire encore une fois, et ça enlève la tonalité un peu moralisante et moralisatrice qu'il a dans la notion de don, ça veut dire que le social ne vient pas de surcroît s'ajouter. Mmh. Il est constitutif de la nature même des objets. Les objets parmi lesquels nous vivons ont un sens, ce qui veut dire qu'ils doivent circuler.
Patrice Maniglier, Alain Caillé, un philosophe, un sociologue sont avec nous pour tenter de repenser là où les sciences sociales. Il est 13h24 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jespert.
Quid des sciences cognitives? Les neurosciences peuvent-elles légitimement voler au secours des sciences sociales? C'est aussi ce qu'on entendait en ébauche de cette discussion dans les mots de Gérald Bronner, l'importance de s'ouvrir aussi à ces nouvelles sciences. Pour le sociologue Alain Ehrenberg, que nous recevions autour de cette grande table, auteur de La mécanique des passions, paru chez Odile Jacob, l'homme social serait en train de muter en homme neuronal. À ce micro, il affirmait que la tribu des neurosciences a un projet anthropologique, celle de réduire l'homme pensant, sentant et agissant à une partie de lui-même, son cerveau, une révolution cognitiviste et un avènement des neurosciences dû, selon lui, aux exigences de l'individualisme. Écoutez-le.
Il y a toujours dans le cerveau des ressources pour se sortir des problèmes de la vie, des difficultés de l'apprentissage, etc. Et justement, ce message est formulé donc avec des démonstrations, puisqu'il s'agit d'une science et d'une science expérimentale, mais il est formulé, disons, dans un genre de société qui privilégie aujourd'hui au plus haut point le développement des capacités humaines individuelles, qui a de puissantes attentes collectives à l'égard de l'autonomie individuelle, et c'est formulé avec les valeurs de rigueur, de clarté, de simplicité, de démonstration de la science. Après, il faut aller voir les résultats, mais mon idée, justement, c'est que les résultats scientifiques ne suffisent pas. Il faut que ça rencontre des idéaux sociaux majeurs. Et mon idée, c'est que les neurosciences cognitives ont acquis une autorité morale et sociale dont j'essaye d'explorer les ressorts, parce qu'il me semble justement que les débats nature-culture, sciences et société se sont peut-être posés de manière un peu trop générale.
Alain Cayet, Patrice Maniglier, est-ce qu'on a là un nouveau paradigme, voire peut-être le nouveau paradigme unificateur ?
Alors moi, je dirais d'abord que ce paradigme est quand même un peu vieux. C'est-à-dire qu'il date au moins des années 90. Quand j'étais étudiant, déjà, le cognitivisme était la chose... Bon,
mais là, en fait, il prend corps.
Il prend corps, c'est-à-dire que l'État le soutient avec 20 ans de retard. Bon, pourquoi pas, mais...
Donc c'est il vrai est déjà dépassé.
Oui, très franchement, je pense que oui. Et il est dépassé, en fait, notamment, je pense que ce qui se fait autour de la question des big data, s'il y a quelque chose de vraiment nouveau, c'est depuis quelques années, on a non seulement une accumulation de données, et ça c'est quand même très important quand on veut faire des sciences, c'est d'avoir des éléments observables. Bon. Et là, on a une accumulation d'éléments observables qui sont traitables de manière mécanique, qui est extraordinaire, unique dans l'histoire humaine. C'est la première fois. Donc s'il y a quelque chose de nouveau depuis 5 ans, c'est ce qui se passe autour des big data, c'est pas ce qui se passe dans le domaine de la cognition.
Est-ce que ça veut dire que le sociologue déchargé de tout le travail de statistiques et de récolte de la donnée aura du temps justement pour prendre le recul nécessaire et apporter cette synthèse structuraliste que vous appelez de vos voeux ?
Je pense que ça veut dire que ça change la nature du travail, qui est peut-être probablement aussi un dialogue avec des algorithmes, hein, et aussi avec. Donc là, on n'est pas très bien formé, il faut bien le dire, hein, pour savoir comment investir tout l'immense savoir aussi la critique du savoir, parce que ce qui est caractéristique des sciences humaines, c'est que c'est aussi des disciplines qui savent critiquer leur propre épistémologie. Hein. Et donc souvent, on voit qu'il y a beaucoup de naïveté dans justement, notamment dans les neurosciences, il y a parfois une incroyable naïveté. Sur le fait, bon, moi je donnerai un exemple tout simple. Donc je connais bien le domaine de la linguistique. Et je vois par exemple qu'on veut établir des universaux phonologiques, c'est-à-dire des différences phonologiques qui seraient immédiatement partagées par tous les êtres humains. Comment fait-on ? On prend des petits bébés, on leur met une tétine dans la bouche, et puis on fait un son, par exemple, pa, 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 qu'on répète, le bébé s'endort, donc il tète moins, puis on fait une petite variation. Donc pas pa pa, je sais pas. Mmh. Et si le bébé perçoit, il va commencer à mâchouiller un peu plus. Bon, très bien. C'est un protocole, pourquoi pas. Mais à partir de là, on veut généraliser sur des échantillons qui sont en fait minuscules, qui sont les enfants des profs d'Harvard, et on va généraliser. Bon, donc ça ne marche pas. Donc voilà, ce rigueur-là est absolument nécessaire à réintroduire aussi, peut probablement, ça va se poser dans les big data.
Même question, Alain Cayet, pour vous, donc nouveau paradigme, unificateur ou pas, et puis mot de conclusion,
oui, passage, il reste. Je suis très content de laisser parler Patrice Maniglier, parce qu'en fait, sur les sciences cognitives, j'ai assez peu de choses à dire, parce que pour l'instant, je n'ai vu aucun résultat particulièrement... intéressant ou impressionnant des sciences cognitives en question. Alors c'est vrai que les big data, on a un peu du mal à les penser, parce que là, ça change complètement la donne, ça fournit une masse d'analyses possibles. Je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on leur donne du sens à ces analyses et à toutes ces données, comment est-ce qu'on les réunit ? Ça renvoie à la question qui est posée par le livre, au bout du compte. Comment est-ce qu'on institue un espace dialogique, un lieu de synthèse potentielle, provisoire bien sûr, dans le domaine des sciences sociales ? Et à mon avis, je conclue là-dessus, ça implique une réforme institutionnelle tout à fait importante, qui est la création, dans l'enseignement supérieur et la recherche, de deux disciplines généralistes dans lesquelles seraient admis des enseignants-chercheurs formés, reconnus, légitimés dans au moins deux disciplines. J'ajoute juste un mot, ça pourrait être la suite de l'enseignement des SES qui risque de disparaître très rapidement. Et ça serait la suite logique de CSES que le gouvernement semble vouloir remettre à bas.
Merci beaucoup à vous, Alain Cayet. Des sciences sociales à la science sociale. Cet ouvrage collectif vient de paraître aux éditions Le Bord de l'eau. Merci à vous, Patrice Maniglier. Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Correspondance 1942-1982 vient de paraître dans la collection La Librairie du 21e siècle au Seuil. Un énorme merci à toute l'équipe de La Grande Table, Clémence Marie, Claire Maillot, Henri Leblanc et Maxime Morin, avec l'aide précieuse de Émile Boutelier et de Liana Valken, à la réalisation aujourd'hui Perry Legras avec Clément Daté. Toutes les infos et le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceculture.fr.